Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. C'est avec joie que je reçois Jacques Payot, un chirurgien que vous connaissez, chers auditeurs, puisqu'il est venu dans notre studio évoquer sa vie de chirurgien et son aide dans les pays d'Afrique. Jacques Payot, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
En effet, je vous reçois aujourd'hui pour un essai historique sur le coup d'État royal du chancelier de Mopou. On peut d'ailleurs voir le buste de ce chancelier au musée Jacques Marandré. J'ai beaucoup aimé la dédicace qui est fort intéressante, Antoine de Maupoux d'Abège et Jean Payot. Alors, peut-être tout d'abord, voulez-vous nous dire à qui se dédicacer cet ouvrage? Qui sont-ils?
L'histoire de cet ouvrage, c'est que j'ai vécu pendant une quinzaine d'années chez des amis qui portent le nom de Maupoux d'Ablège, qui habitent près de Chartres. Et j'ai donc vécu dans l'ambiance du chancelier de Maupoux pendant une quinzaine d'années.
Et bien entendu, toutes les soirées, vous évoquiez ce chancelier, peut-être pas toutes, mais quand même.
Eh bien, pas du tout. J'avais simplement entendu parler très très vaguement d'une vieille réminiscence historique des études secondaires de mot chancelier de Maupoux. Et bien entendu, quand je suis arrivé chez les Maupoux, j'aurais dit, je suis content d'être chez le chancelier de Maupoux, sans du tout savoir de quoi il s'agissait en réalité. Et je suis resté dans cette ignorance pendant des années et des années, jusqu'à ce que je prenne ma retraite et que je me plonge sur le dossier Maupoux, si je peux dire.
Ah oui, ils ne vous ont pas donné des
non,
dossiers.
Je crois qu'on n'en a jamais parlé ensemble, mais bon, ils avaient un portrait de Maupoux, ils étaient bien entendu au courant de leur... Oui, c'était un ancêtre, bien que ça soit une branche complètement collatérale au chancelier de Maupoux, ils ne sont pas des descendants directs du chancelier de Maupoux, et autant que je sache, les descendants directs du chancelier de Maupoux maintenant ne portent plus ce nom. Enfin, peu importe. La dédicace, c'est à leur fils, qui est juge assis,
oui.
Et à un de mes neveux et filleuls, qui est, lui, avocat, donc debout, mais qui tous les deux exercent la justice avec sérénité et clairvoyance, j'espère tout au moins.
Je n'en doute pas. Alors venons-en à cette pièce de théâtre, parce qu'il s'agit d'une pièce de théâtre qui se passe en janvier 1771. Alors peut-être un rappel historique que vous faites d'ailleurs dans la préface.
Bien, l'histoire, c'est que le chancelier de Maupoux est un personnage complètement, je crois, méconnu. On connaît vaguement son nom, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Et j'ai été sidéré d'apprendre l'action qu'il a eue, qui a été considérable et qui aurait pu complètement changer le cours des choses, et notamment l'évolution de la monarchie absolue vers une probable monarchie constitutionnelle, mais progressivement et dans la sérénité, et en nous évitant une révolution qui a été catastrophique dans le sens de la terreur, dans le sens des guerres de Vendée qui ont été horribles, et qui nous ont amenés à persister dans un système guerrier pendant très 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 longtemps. Alors pourquoi est-ce que le chancelier de Maupoux a eu une action importante? Eh bien, il faut se référer à une ancienne histoire qui est l'histoire des parlements. Les parlements, ce sont des magistrats qui exercent la justice. Ce ne sont pas des parlements au sens anglais du terme, ce ne sont pas des députés, ce ne sont pas des gens que l'on élit. Ce sont simplement des juges qui achètent leurs charges et qui, grâce à cet achat qu'on appelle la vénalité, qui n'est pas non honorable, il n'y a rien de mal.
Oui, ça a pris un autre sens maintenant.
Voilà. Maintenant, on emploie le sens de vénal, mais à l'époque, la vénalité n'était pas un défaut. Donc, ces parlementaires ont exercé un pouvoir de plus en plus important sur la royauté, parce que la royauté a eu besoin de ses parlementaires, de ses juges, pour elle-même exercer sa monarchie absolue. Et un des moments importants a été les états généraux de Blois en 1576 avec Henri III, qui a eu besoin des parlements, et ayant besoin des parlements, il leur a donné le pouvoir de remontrance, c'est-à-dire la possibilité de contrecarrer la loi du roi. Car la loi était faite par le roi, oui. Et non pas par les juges. Les juges n'avaient pas de possibilité de faire la loi. Ils ne pouvaient que appliquer la loi. Mais en donnant le pouvoir de remontrance à ces juges, à ce moment-là, ils leur donnaient la possibilité d'influer de manière parfois considérable sur la loi. Et en particulier d'influer sur les lois fiscales qu'on appelait à l'époque les lois bursales. En influant sur ces lois bursales, il paralysait le roi. Alors, Louis XIV s'est pas mal débrouillé de cette histoire, puisque vous savez cette histoire qui est plus ou moins vraie, plus ou moins fausse, de l'État c'est moi, c'est-à-dire Louis XIV débarquant au siège du Parlement et avec en tenue de chasse et avec son fouet et en disant l'État c'est moi. Bon, même si c'est apocryphe, même si c'est pas tout à fait vrai, ça correspond quand même à une certaine réalité, c'est-à-dire que Louis XIV leur a retiré le pouvoir de remontrance. Et pendant 50 ans, les parlements se sont tenus tranquilles, c'est-à-dire qu'ils ont exercé la justice et uniquement la justice sans aucune influence politique. Oui. Ils ont retrouvé leur influence politique avec le régent qui a eu besoin d'eux. Un peu comme Henri III avait eu besoin d'eux en 1576, le régent en 1710, c'est-à-dire à la mort de Louis XIV, a eu besoin d'eux pour casser le testament de Louis XIV afin d'obtenir le pouvoir royal complet, car le testament de Louis XIV partageait le pouvoir royal entre le duc du Maine, c'est-à-dire un de ses bâtards, et le régent Philippe d'Orléans. Grâce à cette destruction, si je peux dire, du testament de Louis XIV, le Parlement a récupéré son pouvoir de remontrance.
Oui.
Tout le XVIIIe siècle, quasiment, c'est Louis XV, jusqu'en 1774. Donc, Louis XV a été constamment, pendant tout son règne, sous l'influence des parlements qui l'ont en permanence empêché d'appliquer les lois qu'il voulait sortir, et en particulier les lois fiscales, les lois bursales. Or, un grand nombre de ces lois étaient pour faire en sorte que l'on obtienne l'égalité fiscale, ou tout au moins, sinon l'égalité, tout au moins l'équité fiscale, afin que ce ne soient pas les agriculteurs qui payent tout. Car à l'époque, tous les privilégiés, c'est-à-dire les nobles, la noblesse d'épée, la noblesse de robe, c'est-à-dire les parlements, les bourgeois des villes, les commerçants, les artisans qui étaient protégés par les jurandes, c'est-à-dire leur syndicat, tous ces gens-là étaient complètement privilégiés et se débrouillaient pour échapper à l'impôt. Et donc le roi, qui était très proche de son peuple, qui voulait l'équité, n'arrivait pas à faire passer ces lois fiscales. Et on en a eu un exemple absolument extraordinaire avec un de ses ministres des Finances, le contrôleur général Machaud d'Arnouville, qui en 1749 a essayé de mettre en place un impôt parfaitement égalitaire qui était le 20e, c'est-à-dire que chaque personne donnait une taxe qui était le 20e de son activité ou de son revenu. Et évidemment, les parlements n'en voulaient pas, les nobles n'en voulaient pas, l'Église n'en voulait pas, tous ces gens-là n'en voulaient pas et se sont débrouillés pour faire capoter le 20e. Louis XV, qui en ce moment-là, en 1749, n'avait pas encore complètement compris l'importance du sujet, finalement a capitulé devant les parlements, il a renvoyé Machaud d'Arnouville, il a aboli le 20e et on est revenu au système précédent, c'est-à-dire imposer au maximum les agriculteurs, les paysans et faire perdurer l'inégalité fiscale.
Oui.
Oui,
c'est à peu près là que va se situer votre pièce de théâtre.
Alors, et c'est là qu'arrive le chancelier de Maupoux. Il arrive en 1768.
C'est ça.
C'est un magistrat, c'est un premier président du Parlement de Paris. Non, et il est, tous les parlementaires, c'est-à-dire les magistrats, sont très rassurés de le voir arriver comme chancelier parce que il a toujours bien été dans le sens de la magistrature, c'est-à-dire la protection des privilèges. Et ils sont très rassurés.
Oui.
Et puis, ils vont avoir une très, très mauvaise surprise.
Alors, on peut peut-être expliquer rapidement comment va se passer cette pièce de théâtre, parce que c'est une pièce de théâtre. J'espère bien qu'on la verra à Chartres, parce que c'est extrêmement intéressant. Alors, le premier acte montre justement une bibliothèque René-Ange de Maupoux. Et lui, il est en train d'apprendre un petit peu ce que vont être les lois. Et il va avoir un précepteur qui va l'aider. Précepteur qui est également le conseiller de son père. C'est bien cela.
Voilà, très bien. Oui, alors le premier acte, effectivement, est un acte d'exposition pour essayer d'expliquer là, tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le rôle des parlements, leur importance, le fait qu'ils font beaucoup plus de politique que de justice et que, de ce fait, ils empêchent le roi de pratiquer l'égalité fiscale à laquelle le roi souhaite réellement.
Oui.
Ce monarque absolu qu'on présente comme un despote.
Ça, vous le montrez bien dans votre pièce
oui,
de théâtre.
Ce monarque absolu n'est pas du tout un despote. Au contraire, il veut le bonheur de son peuple. Il veut le calme et la sérénité. Et malheureusement, il n'arrive pas à ses fins. Alors, le chancelier de Maupoux arrive en 1768.
Il arrive aussi
pièce. Le premier acte explique que le chancelier veut que son fils aîné devienne un des présidents de Parlement.
Alors qu'il n'en a pas l'intention.
Oui, le fils aîné n'en a pas du tout envie. Lui, il va être militaire. Et donc, il est contraint et forcé par le père jusqu'à ce que le père comprenne sous l'influence de son conseiller Lebrun. Lebrun, c'est le futur troisième consul de Napoléon.
Oui.
Mais ce conseiller Lebrun, lui, est à l'origine, avec Maupoux, de cette réforme fondamentale qui a eu lieu en 1770, qui a consisté à empêcher les parlements de nuire.
Oui. Et donc, du fait, le fils n'aura même pas le droit non plus d'être,
absolument,
chancelier.
Et d'ailleurs, le chancelier de Maupoux, du fait de son action très négative sur les parlements, a été très très mal vu par les parlementaires pendant très longtemps.
Oui.
Et il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour qu'un jeune procureur, Jules Flammermont, en faisant sa thèse sur le sujet, décrive un chancelier de Maupoux qui finalement n'était pas du tout négatif. Et que ce chancelier de Maupoux aurait pu... que si on avait écouté le chancelier de Maupoux, l'histoire eût été sûrement bien différente. Mais la statue du chancelier de Maupoux a été complètement éradiquée du palais de justice pendant très très longtemps. Et je crois que c'est seulement au début du XXe siècle qu'on l'a remise dans la galerie du palais de justice, outre le musée
Jacques-Marandré,
auquel vous faisiez allusion dans l'introduction.
Oui. En fait, on voit déjà les idées de Montesquieu qui sont prépondérantes. Eh bien, écoutez, je crois qu'on ne peut que suggérer à nos amis auditeurs d'aller voir cette pièce de théâtre. J'espère que vous voudrez bien nous dire quand elle sera jouée. Et c'est avec joie que nous rendrons pour examiner, voir, admirer cette pièce de théâtre. Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, ce titre... Le chancelier de Maupoux.
Merci, Christiane Blain. Thank you.